19h, 20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et bienvenue dans l'incubateur à idées de Beurre FM, 19h-20h, on parle de sujets sérieux sans se prendre au sérieux avec Nadia Elbouga. Oulal, bonjour Nadia.
Bonjour Philippe.
Bienvenue.
Bonjour à tous.
Sage-femme et sexologue. Salima est avec nous également.
Oui, hello.
Co-présidente d'une ONG et entrepreneur sur le web, ça va Salima?
Oui, ça va, merci.
Bien. À côté de... Alors, le petit nouveau, c'est Jamel Dine. Oulal, bienvenue.
Merci.
Étudiant en théologie, bienvenue sur Beurre FM.
Merci, Baraklarfik.
Ouais, il n'est plus étudiant maintenant, il est quand même...
Je suis toujours étudiant.
Référent.
On arrête jamais d'apprendre.
Je suis toujours étudiant.
On est tous des étudiants.
Celui qui parle avant qu'on lui ait donné la parole, vous l'avez bien reconnu à droite sur le transistor, c'est l'imam Abdelali Mamoun.
Il est étudiant alors que le monsieur, il a déjà, déjà derrière lui un gros bagage.
Étudiant en théologie.
En théologie.
Voilà.
Bien, merci Imam Abdelali. Et puis Ismaël Mounir est avec nous également.
Bonjour, salam alaikum.
Bienvenue, vous êtes
merci.
Imam et fondateur de l'Institut Amine. Maïté Nordubarreau, Maître Serran, je vous ai donné toute une liste de mots que vous ne pouvez pas employer,
d'accord hein,
pour votre chronique. Donc, on vous écoute, on n'hésitera pas à vous couper quand il faut vous couper.
On attaque.
Allez-y.
Salam alaikum, frères et sœurs. 5 jours déjà, mine de rien. Alors, j'avais rajouté sans gag et je rigole, mais ça, je le mets pas puisque vous me dites qu'il y a des mots qui sont interdits. Donc, 5 jours déjà, mine de rien. Alors, je vais pas faire le chronomètre du ramadan. Non, je suis pas comme certaines personnes que tu connais probablement qui passent plus de temps à compter les jours, voire les heures qui s'écoulent durant le ramadan qu'à prier. Je dis juste que ça fait 5 jours qu'on fait le ramadan, comme ça, à titre informatif. Bon, je dois reconnaître quand même que le week-end, quand je bosse pas, le temps me semble long, mais je me plains pas, alhamdoulilah. D'ailleurs, selon que tu dises déjà 5 jours de ramadan, ou ça fait 5 jours seulement qu'on fait le ramadan, on arrive à connaître ton état d'esprit, à savoir quel type de musulman tu peux être. Non, mais ça va. Hein, on commence à prendre le pli et ton corps, qui n'avait pas compris les raisons pour lesquelles tu as arrêté du jour au lendemain de le nourrir, commence à saisir ce qui se passe et s'adapte sans aucun problème. C'est la magie du corps humain. Bien que je dois reconnaître, mon cher Philippe, que le ramadan fait perdre certains repères à nos auditeurs. Tiens, hier j'ai reçu un mail, 22h55 très précisément, d'un auditeur qui m'écrit « Maître Serran, je n'ai pas réussi à appeler Abdelali Mamoun. » Alors d'abord, c'est pas Abdelali Mamoun, c'est monsieur Abdelali Mamoun.
Déjà.
Voilà. Hein, le ramadan ne crée pas de proximité particulière ou de familiarité, mon cher monsieur. Donc je n'ai pas réussi à le joindre. Question. Ma femme doit aller chez le gynécologue mercredi prochain. Est-ce possible avec le ramadan? Merci de poser la question. Alors que la question soit posée par un homme, on dit long sur l'état d'esprit de ce type. Je suis sûr que c'est le genre de type qui veut pas que sa femme se fasse examiner par un médecin homme. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de poser cette question à notre ami l'imam, mais il y répondra peut-être.
Alors, mais Maître Serran... Tout à l'heure.
Non, mais voilà, mais car Maître Serran, dans sa grande bonté, va passer quand même le message. Mais... faut-il vraiment être imam pour répondre à cette question, mon cher Philippe? Moi, la réponse me semble évidente. Selon moi, à partir du moment, cher auditeur, où tu te rends chez le gynéco, voire chez le proctologue, donc à partir du moment où on te met un doigt dans le fiacre ou ailleurs, il est peu probable, selon moi, que ton ramadan puisse passer. Hein? Peut-être que l'imam aura une autre réponse pour notre auditeur. C'est que ma réponse, ça n'engage personne d'autre.
Heureusement qu'il a été censuré. Hein.
Auditeur qui, je l'espère, va écouter cette émission qui va booster l'audience. Hein, car aujourd'hui, nous allons parler de ramadan et de sexualité. Alors, autant ton estomac, tu peux le contrôler. Autant ton côté dragueur, séducteur, bref, ta quéquette, qui fait que t'es un homme de Cro-Magnon, c'est plus compliqué à contenir. On connaissait l'expression « nozob in job ». Il va falloir y rajouter nozob in ramadan. La question est posée, mon cher Philippe.
Bien, le ramadan, un tue l'amour. On en parle aujourd'hui. Maître Serran, merci de votre introduction, si je peux me permettre. Mais vraiment, vous n'avez pas été suffisamment censuré. Il y a beaucoup de questions et beaucoup d'idées reçues concernant le ramadan. Mais pour beaucoup, le mois de ramadan se transforme en un mois sans amour. Nadia, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez en cabinet ou sur le terrain?
Alors, moi, j'aime bien faire le comparatif avec la grossesse. C'est-à-dire qu'en règle générale, la sexualité, par exemple, durant la grossesse d'une femme, la période où ce couple va accueillir son enfant, eh bien, c'est un peu similaire au Ramadan. C'est-à-dire que la sexualité que l'on a avant la grossesse n'est pas différente de la sexualité que l'on a pendant et après. C'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer, pendant le Ramadan, avoir une sexualité épanouie, si déjà, par ailleurs, avant le Ramadan, vous aviez une sexualité plutôt platonique, voire...
D'accord, de ce point de vue-là, ça ne change rien, c'est ce que vous voulez dire.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le Ramadan, effectivement, ce que l'on peut voir sur le terrain, il y a cette idée encore qui circule, et ça, je laisserai les théologiens en parler, il y a encore cette idée qui circule, comme d'avant la révélation du verset qui parle justement de la sexualité et du jeûne, cette idée qu'en fait il faut une ascèse sexuelle, c'est-à-dire une abstinence sexuelle pendant le mois du Ramadan, et ce même le soir. Il y a encore cette idée-là qui circule chez...
Ça va même plus loin que ça, il y a même l'idée, le petit bisou par exemple.
Alors, on va y revenir après le petit bisou. Vous parlez de petit bisou pendant le jeûne ou
oui, enfin, le petit bisou pendant la journée ou
Oui. Alors, il y a cette idée justement que sexualité. Alors, on dit on parle pas de sexualité en règle générale. Les gens parlent de sexe. Ils parlent pas de sexualité. Parce que s'ils parlaient
c'est
de
pas
sexualité,
la même chose.
C'est pas la même chose. S'ils parlaient de sexualité avec un grand S, effectivement, ils estimeraient que le bisou qui est fait habituellement à sa compagne ou à son compagnon n'enlève en rien l'état de jeûne si on n'est pas dans une situation d'excitation génitale. Donc ça en dit long sur comment est-ce que l'on perçoit la sexualité et le mélange que l'on fait entre sexualité et génitalité.
Alors, le jeûne du mois de Ramadan comporte plusieurs interdictions, dont celle d'avoir des relations sexuelles durant la journée. Que disent précisément les textes? Alors, Ismaël Mounia.
Alors, je vais citer le verset 187 de sourate Al-Baqara, qui justement, dans le contexte de toutes les règles qui concernent le jeûne du Ramadan, qui commence par ce premier verset, Ya alladhina amanu kutiba alaykum siyam, et qui termine par ce dernier verset, qui est le 187e verset, et dans lequel Allah Azza wa Jalla dit clairement, il vous est permis les nuits de Ramadan de consommer des relations avec vos épouses, car elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement. J'aime bien l'expression un vêtement ici, parce que souvent on le comprend comme étant un moyen de s'abstenir. Moi je pense que c'est d'abord une manière de ne plus déshabiller les autres, notamment ceux du sexe opposé, de ne plus les regarder avec ce regard vicieux. Et c'est ça que j'aime dans cette traduction, dans cette interprétation, dans cette exégèse du terme hunna libas ou lakum. C'est dans le sens que, à partir du moment où je consomme, je satisfais mes besoins avec ma femme, je n'ai plus besoin, je ne me sens plus besoin de déshabiller une femme autrui, car je suis rassasié, comme le disait le prophète alayhi sallam, quand il disait man ra'a min imra'atin ma yu'jibuhu falyati ahla. Celui qui voit sur une femme quelque chose qui lui plaît, je sais pas moi, une forme, quelque chose qui pourrait l'exciter, eh bien qu'il aille consommer, qu'il aille rassasier son besoin sexuel en allant voir sa femme et consommer avec sa femme qui est elle pour lui halal. Bien sûr, donc pour le mois du Ramadan, il est permis les nuits du Ramadan de consommer des relations, alors qu'au début de l'islam, ça n'était pas autorisé.
Donc ça c'est important. Voir l'historique Jamaline. Avant.
Oui, l'historique, c'est tout au début du voilà, Ramadan, hein, ça se passe. Au début, il est interdit. Sayyidina Omar al-Khattab est celui qui va, à chaque fois, bien sûr, toujours contribuer à la modification de la législation islamique, comme dans beaucoup d'autres cas. Et là, il en est effectivement énormément contributeur. Et Dieu va le dénoncer. Il a dit, moi, Dieu, je suis au courant de ce que tu as fait, ya Omar, une telle nuit où tu as fait semblant que tu dormais et que tu as consommé des rapports. Alim Allahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaykum. Avant même qu'il demande pardon, avant même qu'il se rende compte qu'il avait commis une erreur, Dieu lui dit, je te pardonne et je te fais grâce. فَالْآنَ بَشِرُهُنَّ Dieu dit, maintenant consommez, ayez des relations intimes, وَابْتَرُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ et cherchez auprès de Dieu ce qui vous a été prescrit, c'est-à-dire une descendance à travers la relation intime. Et donc, oui, tfadal.
C'est juste par rapport à Mubashara, là, ce qui est important dans ce verset-là, et Allah subhanahu wa ta'ala parle de Mubashara. Il ne parle pas de Jima, il n'a pas dit فَجَامِعُهُنَّ, il n'a pas dit فَنْكِحُهُنَّ, il parle de Mubashara. Et le mubashara, il est différent de l'jima.
Alors, expliquez à Jamaldine, parce que vous vous êtes penché.
Alors, le mubashara, c'est, d'un point de vue étymologique, c'est simplement des caresses.
Laissez Jamaldine aller jusqu'au bout. Oui.
Donc, le mubashara, donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc, c'est bien de rappeler les faits historiques. Avant de venir vers les rapports, il faut comprendre un petit peu l'histoire. Donc, avant les musulmans, donc, nos frères en l'humanité, chrétiens et juifs, ils faisaient aussi le jeûne. Mais le jeûne qu'ils avaient, c'est à peu près similaire qu'ils avaient les musulmans avant ce verset-là. Mmh. Ça veut dire que on s'abstient du matin au soir de boire, manger et de rapports sexuels. Après, selon les versions, donc, ils avaient soit entre le marou et l'isha pour pouvoir boire, manger et avoir des rapports. Ça, dans certaines versions. Donc, si tu prends le Qurtubi ou si tu prends Ibn Kathir, on parle de cette version-là. Si tu prends Fath al-Qadir chez Shoukani ou chez. Tu prends.
Là, on parle d'encyclopédie exégétique.
Voilà, exégétique.
Pour que les auditeurs comprennent.
Il y a un hadith de Bukhari, il dit que c'est pendant tout le mois de Ramadan avant, les musulmans, ils n'approchaient pas leurs femmes.
Oui, voilà, pendant tout le mois, nuit et jour.
Mais il y a toujours la difficulté. La difficulté, que ce soit un mois ou que ce soit entre le Maghrib et l'Isha, c'était difficile de manger et d'avoir des rapports tout de suite.
Même l'expression au début qu'on a, c'est Ar-Rafath. Ar-Rafath. Est-ce que Ar-Rafath, il s'agit vraiment de rapport intime ou est-ce qu'il s'agit simplement des préliminaires qui précèdent?
Exactement.
Je pense qu'Allah Azza wa Jalla, dans sa grande pudeur et par sa volonté de vouloir éviter d'utiliser des mots crus, eh bien, utilise des termes tels que Ar-Rafath ou Mubashara, etc. Alors que là, il s'agit unanimement de rapport intime. On parle bien de rapport sexuel.
Non. Donc le mubashara, ça ne veut pas dire rapport sexuel.
Oui, d'un point de vue étymologique, oui. Mais
voilà.
Mais
c'est très important à Sayyid Ali de comprendre ça parce qu'on a une parité. On est homme et femme. Et il va falloir respecter les deux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il respecte ces deux êtres. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Et on a honoré la descendance d'Adam, homme et femme. Donc s'adresser.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Fajamirun, Fajamirun, ça veut dire quoi?
Ismaël Mounir. Ouais.
S'il a dit Fajamirun, ça veut dire que c'est un feu vert à l'homme de venir quand il veut faire ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, je dis pas ça.
Donc l'obligation de d'avoir des préliminaires, c'est ça que tu veux dire?
Non.
Alors Ismaël Mounir.
Pas ça.
Jamal, tfadal.
Donc j'ai cherché autour de Mubashara et un jour, Inch'Allah, peut-être ces travaux-là ils pourront avoir le jour.
Oui, mais
donc,
qu'est-ce que tu voulais dire, le Mubashara?
Le Mubashara, c'est prendre contact tactile avec la personne.
D'accord, mais est-ce que Dieu autorise le rapport intime au-delà de le Mubashara, au-delà des caresses?
Il est autorisé à condition que l'autre donne le feu vert. Quand je rentre en contact tactile avec l'autre personne, donc par exemple, je rentre en contact tactile là, il peut me dire. C'est pas le moment, je suis pas prêt.
Ouais, mais ça c'est pas que pendant le Ramadan, c'est toute l'année. Non, oui. En principe, le prophète Sazem, quand il dit envoyer un message avant de consommer, le prophète, on lui a dit mais qu'est-ce que c'est que le message? Il a dit les paroles douces, les paroles romantiques et le bisou.
Oui.
Alors, Nadia.
Là, c'est dans un verset coranique et en fait, effectivement, le choix des mots, il est pas anodin, notamment quand ça vient du divin. Et donc, le fait de parler de le mubashara, nous, en tant que sexologues, ça prend beaucoup de sens parce que c'est à travers le contact que vont être suscités, ça suscite les zones érogènes, ça suscite le consentement, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Donc, le fait de pas dire, de pas utiliser le terme arabe de rapport sexuel, rapport génital ou pénétration, ça a tout son sens. C'est-à-dire que ça laisse, c'est vraiment extraordinaire parce que ça laisse une latitude vraiment très large. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur le terme de consommation. La relation sexuelle n'est pas une consommation. Donc, il faut qu'on arrête de traduire.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va utiliser des mots crus.
En disant.
Comment tu dis? Comment t'appelles ça?
Tout simplement une relation.
Une relation.
Dans même acte sexuel, je suis certaine que si on creusait dans les termes arabes, en fait. Allah subhanahu wa ta'ala.
Oui, mais le verbe, acte sexuel, c'est pas un verbe. Le verbe, qu'est-ce que tu utiliserais comme verbe?
Non, quand on traduit en français, on parle de consommation du mariage, on parle de consommation, et je pense que Simone ne va pas me contredire, quelqu'un qui a écrit sur le consumérisme, justement, la relation sexuelle n'est pas une consommation, c'est une relation. D'ailleurs, même acte, l'acte sexuel, c'est ce qu'il y a dans la pornographie. Là, on est dans l'acte sexuel. C'est un acte, c'est factuel. Alors qu'une relation, on entre en lien avec l'autre. Et donc, c'est important que nous, musulmans, même quand on traduit, que l'on traduise avec des mots qui vraiment englobent le sens sens profond de ce que signifie la relation sexuelle, et notamment dans le cadre du Ramadan, c'est encore beaucoup plus important.
J'ajouterais juste sur le Mubashara pour comprendre, parce que le Mubashara toute seule, c'est de l'aller. Moi, après les recherches, ça mérite, elle toute seule, un livre. Parce que subhanallah, quand on revient à la racine de Mubashara, il y a beaucoup de mots positifs qui sont autour. Mm-hmm. Donc la racine du mot Mubashara, il y a Bachar.
D'accord. Est-ce que, avant de donner la parole à l'imam Ismaël Mounir, je voudrais juste, à mon avis, faire comprendre aux éditeurs de quoi on parle. Il s'agit d'un côté la dimension comportementale du rapport intime, on est bien d'accord.
Oui.
C'est ce qui vous met, qui vous importe énormément, dont vous mettez l'accent. Et puis il y a aussi la dimension juridique, qui est-ce que pendant les nuits du Ramadan, est-ce que je peux consommer des relations sans pour autant être mufter, c'est-à-dire d'avoir annulé, invalidé et donc être imposé la kafara. Et le qada avec la kafara, c'est-à-dire cette expiation compensatoire de 60
alors,
jours
Ismaël
de jeûne
Mounir,
pour 60 repas.
Ismaël Mounir.
Alors, Ismaël Mounir pour dire quoi?
Non, mais alors, si vous ne voulez rien dire, ne le dites pas.
Le jour du Ramadan, la journée.
Oui. C'est parti dans tous les sens. Le débat. Non, de toute façon, c'est connu qu'on peut avoir une relation sexuelle. C'est comme ça qu'on dit, du coup, maintenant, je vais choisir
non,
mes
non,
mots.
Non, non, mais c'est très bien, c'est très bien.
Avec Nadia.
Alors, si on revient sur le verset, déjà, premièrement, ce qui est intéressant, c'est que Dieu dans le Coran, il nous parle de sexualité. D'accord ? Ça, déjà, c'est très important. Là, juste avant de venir, j'ai mis sur mes réseaux sociaux que j'allais animer une émission et j'ai eu des réponses. Tu vas parler de sexualité avec une femme pendant le mois de Ramadan.
Mais à total.
Il y a la tif.
Donc voilà. Donc, ça, déjà, à mon avis, il y a beaucoup un gros travail de démystification à faire sur la question de la sexualité. C'est quelque chose de sain. C'est quelque chose dont l'islam a parlé. Il faut se décomplexer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que dans la société dans laquelle on est, où il y a une érotisation, il y a de la pornographie, on a tout intérêt justement à nous venir avec une vision de la sexualité pour donner des points de repère et éviter justement de mettre des tabous, parce que justement les jeunes, ils vont aller se nourrir.
Ils iront où il y a de l'info.
Et voilà, et là où il y a de l'information, et ça ramène à mon avis pas mal
de
problèmes par la suite quand ils sont mariés, et d'ailleurs on le voit nous quand ils viennent nous poser des questions. La deuxième chose, c'est que le verset, alors il y a le frère qui a développé la question de Mubashara. Alors a priori lui il a poussé les études, moi j'avais pas été jusque là, mais ça paraît très intéressant. D'ailleurs si vous avez les travaux, je serais ravi de les lire. Mais déjà juste avant dans le verset, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que Dieu dit, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Et là tout de suite on voit la réciprocité.
On reviendra sur le mot si vous voulez bien Ismaël Mounir, justement là-dessus, précisément on reprendra sur ce point-là.
Ramadan & Co revient dans un instant. 19h, 20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et avec ce soir autour de la table, Nadia El Mouga qui est avec nous, Salima, Maître Mourad Serran, Jameldine Oulad, l'imam Abdelali Mamoun et Ismaël Mounir. Ismaël, revenons à la sourate de...
Alors justement, donc je disais que dans le Saint-Coran, la première idée c'est que Dieu nous parle de sexualité. Il y a d'ailleurs un autre verset, le 223, la sourate 2, où carrément il est dit vos femmes, alors il a été traduit à mon sens très maladroitement, sont un champ de labour, nisa'ukum harthun lakum. Que moi je traduirais plutôt comme source de vie.
Source de vie, tout
voilà.
Tout à fait.
Et en fait, ici ce verset-là, il est descendu parce que les hommes à la Mecque avaient une pratique sexuelle, et quand ils sont partis, certains hommes émigrés à Médine, se sont mariés avec des femmes médinoises, les pratiques différaient. D'accord. Donc,
disons de manière crue.
Alors, de manière crue, c'est-à-dire que c'était plutôt la position du missionnaire à la Mecque, et plutôt la position.
Aimer quoi? Aimer pratiquer des rapports par derrière. C'est bien
voilà,
ça.
Voilà, exactement.
Voilà. Et alors que à Médine, pour eux, c'était honteux.
Exactement, parce qu'ils étaient notamment influencés par la communauté juive, et certains rabbins disaient que si on le faisait, l'enfant souffrirait de strabisme.
Voilà.
Et donc, quand les femmes sont parties poser la question au prophète, eh bien Dieu il arrive et révèle un verset. Donc on a dans le Coran un verset qui vient libéraliser la pratique sexuelle, et le prophète il a interprété ce verset en mettant une limite que la pratique ne doit pas se faire, le coït ne doit pas se faire par l'anus, mais uniquement dans le vagin. D'accord. Donc voilà. Donc le Coran il nous parle clairement de sexualité.
Je pense quand même là t'es un peu restreint, Ismaël.
Hein?
Il dit pas forcément que dans le l'interdiction elle est l'anus. L'anus, c'est tout. Mais tout le reste, si quelqu'un a envie d'utiliser le corps de sa femme pour se faire plaisir, que ça soit le vagin ou autre.
Si la femme veut utiliser aussi le corps de l'homme,
avec son consentement.
Attendez, Nadia, vous la cherchez, vous la trouvez.
Voilà, la réciprocité est valable si la femme veut utiliser le corps de son mari.
Voilà, effectivement. Voilà, donc c'est toujours réciproque. Mais toujours, il y a cette question d'anus qui est
proscrite. Ismaël Mounir.
Ma première idée, et c'est le message que je vais envoyer aux musulmans, Dieu nous parle de sexualité.
Dans le Coran.
Le prophète nous parle de sexualité et c'est plutôt libérateur, la manière dont on en parle, il n'y a pas de tabou. La deuxième chose, la réciprocité entre l'homme et la femme, parce que souvent, et d'ailleurs moi j'ai vécu au Maroc pendant 7 ans, de l'âge de 25 ans à 32 ans, et ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que la sexualité, on a l'impression que c'est pour l'homme, c'est un truc d'homme, c'est pas un truc de femme. Or, on peut s'apercevoir que l'homme, à chaque fois qu'il a un rapport, il peut procréer, ce qui n'est pas le cas de la femme. La femme, le nombre de jours dans son cycle menstruel où elle peut reproduire est très réduit. Et la femme en plus, donc c'est-à-dire que le reste de sa sexualité, c'est du plaisir et c'est pas de la reproduction. Et deuxièmement, la femme, elle a un organe génital qui n'est voué qu'au plaisir. Donc c'est bien, y a bien ici, si on médite, le fait que c'est, faut démystifier cette manière de voir la sexualité. La sexualité, c'est autant un truc de femme que d'homme.
Toujours se placer du côté de l'homme.
Et la réciprocité, elle est clairement exprimée ici dans le verset par l'idée de libès, c'est-à-dire qu'il y a une réciprocité dans le rapport. Il y a la sensualité, le rapport à la peau, la proximité, la protection, etc. L'idée aussi de sotra, c'est-à-dire de protection, etc.
Et de dissimulation.
De dissimulation,
de confidence intime.
Et après,
qu'on n'a pas le droit de dévoiler.
Alors, Ismaël Mounir, terminez sur votre idée,
ce que l'on fait avec sa femme à la maison.
Terminez sur votre idée.
Non, voilà. Bah, et après, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce verset-là, il suit un verset. Donc, on est dans les versets du jeûne. Mais il suit un verset juste avant le 186 qui nous parle de la connexion avec Dieu. C'est-à-dire, et si mes serviteurs te demandent à mon sujet, et là Dieu ne répond pas en prenant l'intermédiaire du prophète, il répond directement, je suis tout proche. Je réponds à celui qui m'invoque, à l'appel de celui qui m'invoque, au moment où il m'invoque, qu'il réponde à mon appel. Donc ça veut dire que, pour faire très court, et le message que je voudrais envoyer, c'est que il n'y a pas de, si vous voulez, de dichotomie, il n'y a pas de dissonance, il n'y a pas d'opposition entre une spiritualité épanouie et la recherche d'une proximité avec Dieu et une proximité sensuelle et sexuelle au sein d'un couple.
Épanouie.
Et même cela, même pendant le mois de Ramadan, il y a une nuance à apporter, peut-être avec les 10 derniers jours, mais peut-être qu'on en parlera.
Alors, Nadia.
Oui, il ne faut pas oublier, on avait donné comme titre à l'émission, le Ramadan est-il un tue-l'amour ? D'accord ? Donc, on partait du postulat.
On part du principe que pendant le mois du Ramadan, les gens réfrénaient toutes leurs envies, y compris le soir.
Y compris le soir, et même la journée. C'est-à-dire que là, du coup, pour le coup, c'est vous qui allez... Nos théologiens qui vont parler de l'aspect juridique et de ce qui est autorisé et interdit. En revanche, moi, j'aimerais quand même appuyer sur le fait que la sexualité, elle n'est pas interdite pendant le Ramadan. Même en état de jeûne, la sexualité avec un grand S, c'est-à-dire on peut continuer à embrasser sa femme ou embrasser son mari lorsque... Ah, attendez, laissez-moi terminer.
Tu peux pas avec l'haleine qu'on a les uns et les autres.
Après, mettre au céral, c'est autre chose.
Ça, c'est un tue-amour.
C'est peut-être
le dentifrice n'est pas interdit pendant le Ramadan.
Quand bien même, même si tu te branches dans le smac. Sérieux.
Décaper la...
Non, sérieux. Tu vas l'embrasser, tu vas la tuer, elle va te tuer.
Comment voulez-vous?
Je sais pas, Nadia. C'est ce qu'on appelle un grand moment de solitude radiophonique. Nadia, allez-y. Soyez forte.
En fait, il y a une très belle sagesse du fait de jeûner une partie de sa sexualité qui est celle qui va amener à l'orgasme et au plaisir. Elle est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il y a un concept en sexologie qui s'appelle l'érotisation de la distance. Et en fait, quand vous jeûnez toute la journée et que vous pouvez, comme je disais, même si votre haleine peut causer quelques problématiques, vous pouvez continuer à saluer, à embrasser votre conjointe ou votre partenaire, à le toucher ou à la toucher. Il faut pas rompre le contact, justement. C'est cette mubashara dont on parle.
Oui. Alors, Salima, oui.
Moi, je pense que si le Ramadan tue votre amour, c'est que le reste de l'année, il devait être quand même bancal. En fait, on a chacun notre manière d'aimer et d'être aimé. On donne son amour comme on aimerait le recevoir. Seulement, l'autre en face n'est pas forcément réceptif à notre manière de faire. Et plutôt... En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un réservoir amoureux et on a besoin de communiquer cet amour et d'en recevoir à notre manière. Et en fait, j'ai lu un livre de Gary Chapman, qui est un sexologue américain, un best-seller, hein, Les 5 langages de l'amour, qui dit que l'amour n'est pas que sexuel. On peut donner de l'amour autrement. Et les paroles valorisantes, c'est important. Justement, la tendresse aussi. Et puis, autre chose, les cadeaux. Les cadeaux, pour certaines personnes, c'est une preuve d'amour importante. Et souvent, quand on est dans une crise de couple, on voit son mari, enfin dans mon cas, ou sa femme, on dit mais il ne comprend pas. Alors qu'on fait des efforts tout le temps, on lui achète des cadeaux, on lui dit des mots d'amour, mais lui ce qu'il attend c'est peut-être uniquement le côté tactile. Donc se mettre au diapason sur ce type de langage, se mettre d'accord, qu'est-ce que j'attends moi de mon mari, de ma femme, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me touche vraiment. Et lui pareil, parce que moi, j'attends toujours mon cadeau.
Mais pendant le ramadan, alors, ramenez au mois du ramadan.
Mais le ramadan, c'est parce qu'on comprend la sexualité comme étant uniquement chez l'homme.
Mais non.
L'éjaculation et chez la femme, l'orgasme. Or, ce que dit notre sœur, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est beaucoup plus global. Et justement, cette érotisation de la distance, le fait de ne pas avoir une proximité physique sexuelle complète, et bien du coup, ça nous amène justement le soir à pouvoir nous retrouver dans de meilleures conditions. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est justement un entretien. C'est vraiment un super exercice, le jeûne pour le coup du ramadan, pour pouvoir érotiser le rapprochement avec son partenaire ou sa partenaire.
Et moi, ce que je vois aussi, c'est que finalement, lorsqu'on n'a pas l'acte sexuel, on passe un temps différent, un temps de qualité avec son partenaire. Et là, on peut se poser des questions, s'échanger et voir plus en profondeur ce qui se passe. Moi, je vois l'islam comme une religion qui prône la sexualité. Donc, avoir un moment où finalement on passe à autre chose, et ben pourquoi pas ? Est-ce que ce serait pas là le secret de la longévité dans l'amour ? Le désir, le fait d'aller voir son partenaire autrement.
C'est alors, un amour
oui,
platonique.
Le soir, alors, platonique, non, parce que, comme on dit, il reste quand même le côté tendresse, érotique, finalement. On n'a pas besoin de tout ramener à la...
À la génitalité.
Voilà. Mais on peut aller plus loin.
C'est très intéressant. C'est le développement. Comment développer l'intimité? Moi, la question est la suivante. Initialement, quand j'ai préparé cette émission avec Nadia, c'est comment le ramadan ou le jeûne peut être un intermédiaire pour le développement de l'intimité. Et initialement, donc avant Saïdna Omar, au début, il y avait interdiction d'avoir des rapports sexuels.
Et la nuit, il parle de la nuit. La nuit du ramadan.
La nuit du ramadan.
Et pendant tout le ramadan. Le jour et la nuit.
Voilà.
Pendant tout le mois, quoi.
Non, pendant tout le mois.
24 heures.
Est-ce initialement, la question, elle est là. Est-ce initialement, il n'y avait pas une sagesse divine? C'est-à-dire, si Sayyidina Omar n'a pas parlé et que ça reste ainsi, est-ce qu'il n'y a pas une sagesse divine aussi qu'il n'y a pas de rapport pendant le mois de ramadan? La question...
C'est-à-dire un message pour comprendre pourquoi est-ce que finalement on s'abstiendrait le soir aussi.
Exactement. Est-ce l'abstinence sexuelle, s'abstenir parce que n'a pas d'effet positif plus tard. Ça c'est une de mes questions. C'est la question.
Alors, en tout cas, moi, ce que je peux dire sur la question de ce qu'on appelle du rapport charnel, c'est-à-dire ce que vous appelez vous le rapport du toucher, du côté sensuel, etc. Hein, on a un hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit que un rasoul kana yuqabbilu wa huwa sa'im wa yubashiru wa huwa sa'im. Non seulement il embrassait sa femme ou ses femmes alors qu'il était en jeûne, et il les caressait, il avait même...
Mubashara.
C'est pas le jima, c'est Mubashara. Voilà, c'est ce qui
n'y a pas de sexualité.
Le préliminaire à la...
Il n'y a pas de génitalité.
Il y a même un sahabi qui est...
C'est important de le dire, parce que c'est important de le dire et de le redire. Ouais. Non, c'est très important parce que...
Ça veut dire, là, en état de jeûne, il n'y aura pas de relation sexuelle, mais par contre, le prophète il faisait la Mubashara avec ses...
Et c'est exactement ce que, effectivement, là, dans ce hadith authentique, et les propos de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui dit hajashtu yawman. Hajashtu, c'est-à-dire j'ai eu un besoin, un envie sexuelle. Hajashtu yawman faqabbaltu imra'ati, et j'ai embrassé ma femme. Alors qala, donc le prophète lui a dit ara'aita law tamadmat, as-tu vu si tu mettais de l'eau dans ta bouche et que tu te rinçais la bouche avec de l'eau, est-ce que tu considérerais que tu as rompu ton jeûne en mettant de l'eau dans ta bouche? Qala hakadha,
Donc il a dit c'est pareil. En fin de compte, c'est la même chose que d'embrasser sa femme, c'est comme mettre de l'eau dans sa bouche, ça n'annule pas le jeûne. De la même manière que si tu mets de l'eau dans ta bouche, tu te rinces la bouche, voire même que tu te brosses les dents, monsieur Maître Serran.
Non, je me brosse les dents.
Sentir bon.
Mais au bout d'un moment, ça
c'est pas interdit de sentir bon dans la
dans la dent.
Cette idée de fatalité de
le
d'avoir le
chalouf. Le dentifrice, ça camoufle pas l'odeur, hein. C'est parce que c'est pas les dents qui sont. Enfin bon, bref.
Ah, c'est. Oui, mais ça aide quand même. Ça aide. Ça aide. Ce qui est important, c'est de bien rincer la bouche après se brosser les dents pendant la journée du Ramadan. C'est pas interdit de se brosser les dents. Ce qui est important, c'est de bien se rincer la bouche, qu'il n'y ait aucun résidu de dentifrice ou d'eau qui va bien sûr être avalé par la personne. Mais moi, on me pose la question sur le fait d'aller chez le dentiste, de mettre une couronne ou de manipuler l'intérieur de la bouche. La bouche ne fait pas partie du corps humain qui est concerné par le jeûne. C'est à partir de la gorge, la frontière ne pas dépassée. C'est quand quelque chose rentre dans la gorge que le Ramadan est annulé. Et quand on parle de rapport intime, c'est quand il y a sexualité, c'est-à-dire ilège, c'est-à-dire pénétration, ou certains savants, la majorité je dirais même, on parle d'éjaculation ou d'orgasme. Là, ça annule aussi le jeûne chez la majorité des savants. Il y a un avis, hein, celui de l'Albani et d'autres savants, qui considèrent que l'éjaculation ou l'orgasme sans pénétration n'annule pas le jeûne. Ça, c'est un avis qui existe. Mais la majorité considère que ça annule. Donc maintenant, on va s'en tenir à la majorité et au khuruj an al-khilaf pour sortir des divergences. On va interdire y compris le plaisir sexuel, l'orgasme, l'éjaculation pour un homme ou pour une femme pendant le jour du Ramadan. Celui qui commet cet acte-là, cette infraction-là, doit s'acquitter de 60 jours de jeûne. S'il ne peut pas, il doit donner à 60 pauvres. Un repas à 60 pauvres. Et s'il ne peut pas, il a franchi un esclave, mais ça n'existe plus. Bon, donc voilà, c'était juste pour préciser le hukm shar'i sur la question, puisque c'est arrivé à l'époque du prophète. On en reparlera si tu le veux après, quand tu veux.
Le mois de Ramadan, un tue l'amour jusqu'à 20h sur Beurre FM.
Ramadan Enko revient dans un instant. 19h, 20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le mois de Ramadan, un tue l'amour, c'est la question qu'on pose ce soir à l'imam Abdelali Mamoun, à Jameldine Oulad, à Nadia El Bouga, à Salima, Maître Serran et à Ismaël Mounir. Beaucoup de gens changent tout pendant le mois de Ramadan, mais comment est-ce qu'il faut comprendre la sexualité, Nadia, pendant ce mois?
Mais c'est ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que la sexualité, en fait, c'est pas antinomique avec le mois de Ramadan qui est un mois de jeûne, qui est un mois sacré. Au contraire, si la sexualité, vous la vivez de façon très englobante, c'est-à-dire que pour vous, ça ne s'arrête pas uniquement à la génitalité et donc à un interdit, alors vous continuez à vivre votre sexualité, même en état de jeûne, c'est-à-dire vous continuez à être dans le toucher, à être dans la sensualité. La sensualité, n'oubliez pas, c'est l'essence. Vous êtes toujours en contact avec votre conjoint, avec votre conjointe. Il n'y a pas un arrêt brutal. C'est comme, j'ai envie de vous dire, une personne qui jeûne d'aliments. Bien, vous n'arrêtez pas pour autant de fréquenter les marchés ou bien les rayons alimentaires. Vous continuez. C'est pas parce qu'il y a un aliment qui va se présenter à vous que vous allez lui sauter dessus et que vous allez l'engouffrer comme ça. Non. Bah, pour la sexualité, c'est exactement la même chose. Alors, il faut bien faire la différence entre les pulsions sexuelles. Et là, pour le coup, la problématique, c'est que la personne qui n'arrive pas à refreindre ses pulsions sexuelles pendant le mois du Ramadan, elle a la même problématique en dehors du mois du Ramadan. C'est pas
non, disons quand même, il y a une nuance. Quand le prophète, alayhi salam, recommande aux jeunes de pratiquer le jeûne, justement, comme protection contre le fait de succomber à la fornication, c'est-à-dire à des rapports hors mariage s'ils restent célibataires. Ayam ashar al-shabab dans le hadith man istata' amikum al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastata' fa 'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija, car elle sera pour lui fa innahu ghaddu al-basar wa na'am wa ahsan al-fajr.
C'est préconisé comme ça parce qu'en fait ce jeûne, il est utilisé, moi j'aime pas le mot contrôle,
non, pas contrôle, affaiblissement d'abord, il y a l'affaiblissement de la libido, de l'appétit sexuel, pour parler normalement, quand on est en jeûne, on devrait normalement, si on bien sûr la consommation de nourriture diminue de 3 repas à 2 repas par jour, elle devrait diminuer forcément, et le
c'est
prophète
faux.
Dit que
c'est faux.
En tout cas, c'est le prophète qui le
non,
dit.
Non, le prophète,
maintenant,
il
c'est
dit
le prophète,
pas
il a
ça,
tort, il a
non,
tort.
C'est le... Non, non, quand il parle du jeûne, même physiologiquement, c'est
faux. Je peux juste
expliquer sexologiquement.
Merci.
En fait, il n'atténue pas du tout la libido. La libido, elle est psychique en grande partie et donc biochimique. Ça n'atténue pas la libido. Ça vient, en fait, c'est un outil qui vous permet de mieux gérer la pulsion et donc cette libido, mais elle n'atténue pas. Donc une personne qui serait un addict sexuel, il pourrait jeûner H24, ça ne changerait rien à sa problématique. Je vous dis, en fait, la sagesse de ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est effectivement juste, dans le sens où le jeûne, s'il est utilisé comme outil et qu'il est bien compris dans sa pratique, il va vous amener à mieux gérer vos pulsions.
Mais alors, comment l'utiliser comme outil?
J'explique. On a expliqué déjà au début du Ramadan, Philippe, que le jeûne était d'abord une manière de dompter son âme, ses passions. Et entre autres, bien sûr, pour s'interdire ce qui est interdit, on s'interdit ce qui est autorisé pour s'interdire plus tard ce qui est interdit. Mais effectivement, on inclut à cette démarche la démarche de maîtriser ses pulsions sexuelles. Pour dire à son corps, c'est pas toi qui fais ce que tu veux de quand t'as envie, c'est moi qui gère, c'est mon intellect, c'est ma raison, c'est d'abord ma foi et mon cœur qui décide de ce que tu dois faire. Tu dois prendre le dessus. Mmh. Et donc on parle de jeûne dans cette démarche éducative et comme une formation de l'âme pour justement apprendre à s'autocontrôler et à dompter son âme passionnelle sauvage, un peu fougueuse, etc.
Je vais rajouter un petit point. Subhanallah, c'est il faut revenir à l'essence de jeûne. Il y a maintenant des savants, alhamdoulilah, ça commence à je vois de plus en plus de savants qui mettent le trait là-dessus parce qu'il y a une confusion chez nous. C'est entre siyam et somme. À un moment donné, on a mélangé siyam et somme. Somme égale siyam et siyam égale somme. Non. Dans la langue arabe, c'est pas la même chose. Siyam, on peut le traduire par le verbe jeûner. Alors que somme, c'est s'abstenir, c'est l'abstinence. Et l'objectif.
L'abstinence de parler.
Exactement. Dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire, c'est siyam. Kutuba alaykum siyam. Il n'a pas dit somme. Parce que s'il a dit somme, nul de nous et très peu peuvent supporter somme. Mais l'objectif, c'est
d'atteindre le somme, pas le siyam.
Dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien mis le lien entre les deux. Man lam yada' qawla zuri. Mais la mère d'Allah qu'avoir zoro l'amal abhihi. Donc c'est que si tu t'abstiens uniquement, tu fais le jeûne, tu manges pas, tu bois pas, mais d'un côté tu voulais pas côté comportemental, t'as pas encore compris l'essence du.
Donc tu pratiques le siyam mais pas le saum.
Exactement.
Alors Salima.
Donc il y a bien la dimension psychique.
Petit à petit, le siyam nous aide à atteindre ce degré du saum.
Le saum. Et le saum, donc voilà.
Ouais, alors Salima.
Mais oui, du coup, moi j'aimerais savoir comment est-ce qu'on ne tue pas l'amour pendant le Ramadan avec tout ça. J'ai un élément de réponse. L'idée serait donc d'apprendre les langages de l'amour que j'ai évoqué tout à l'heure, comme on apprend en fait une langue, parce que tout est une question de communication. Savoir parler l'amour permet de remplir son réservoir émotionnel. Celui-ci permet de sentir épanoui dans son couple et éviter le sentiment d'insécurité dans la relation. Alors, est-ce que vous avez une idée de ces 5 manières de dire à l'autre « je t'aime » en dehors de l'acte sexuel, donc qui est une de ces 5 manières? C'est les paroles valorisantes. Il y a aussi les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Généralement, lorsqu'on est insatisfait dans son couple, on l'exprime par des reproches. Par exemple, tu ne passes jamais de temps avec moi, ou tu ne sors jamais les poubelles, tu ne me fais jamais de cadeaux, ou tu ne me prends jamais dans tes bras.
Tu ne fais pas la vaisselle.
Oui, aussi, ça marche. Donc, on en arrive à une incompréhension dans certains couples et un cercle vicieux qui termine par plus aucun effort des deux côtés. C'est les réservoirs émotionnels qui sont en fait vidés à ce moment-là. Donc, il est possible de sauver sa relation, même pendant le Ramadan, en réapprenant à se parler, à s'écouter dans le langage de l'amour que parle le partenaire, à ce que celui-ci est réellement sexuel. D'ailleurs, est-ce que moi aussi, mon langage de l'amour est sexuel? Donc, de là, posez-vous la question, un de ces 5 langages est le vôtre.
Ismaël Mounir.
Alors, je peux me faire de la publicité, vous me permettez?
Allez-y, faites-vous de la pub.
J'ai fait une
vidéo. Le spot, il vaut cher en ce moment. Allez-y.
J'ai fait une petite vidéo pédagogique justement sur la différence entre le siyam et le saum, qui est l'extrait d'un sermon du vendredi. Et les gens peuvent taper Ismaël Mounir, le jeûne de Maryam, et j'explique la différence entre le siyam et le saum, parce que je partage l'avis de mon frère. Je pense que c'est une manière très, très importante de redécouvrir le jeûne. La différence entre les mots et l'importance des mots est capitale. Alors ensuite, il y a juste une chose. Alors, ça a déjà été évoqué par mon confrère Abdel Ali. La question de la sexualité, et notamment du toucher, du baiser, etc., qu'il y avait une différence, il pouvait y avoir une différence en fonction du type de personne. Et je pense que ça, c'est important à comprendre aussi. La sexualité, c'est d'abord quelque chose d'intime, et on peut avoir différentes manières de la vivre. Et donc, est-ce que, par exemple, pendant le mois de Ramadan, dans un couple, la sexualité, j'entends génitale, peut diminuer? Moi, je pense que oui, surtout en plus en France, vu les journées de jeûne, la fatigue. Alors oui, est-ce que pour autant il faut dramatiser, etc.? Non, quand on sait que c'est temporaire. Maintenant, à côté de ça, la sexualité génitale peut diminuer, mais on peut quand même garder
les autres formes de sexualité.
Voilà, une autre forme de proximité, de tendresse, d'affection, etc.
Mais ça, ensuite, c'est pas évident quand t'as des nuits très courtes.
C'est une évidence que ça doit diminuer l'activité
sexuelle.
Pour ça, il faut quand même sauver l'amour, le sentiment.
Justement, mais je pense qu'il faut travailler sur la vision, c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne que la sexualité, ce n'est pas que la pénétration. Il y a d'autres formes de sexualité.
Moi, ce que je voudrais ajouter,
je voudrais juste terminer.
Jamaline.
Et autre chose, c'est que on voit quand même, il y a dans un hadith, il est rapporté que le prophète عليه الصلاة والسلام il a dakhala al-ashr al-awakhir min shahr Ramadan, yani ayqada ahla, et il est dit wa shadda al-mizar. C'est-à-dire lorsque le prophète rentre dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, il réveille sa famille pour qu'ils fassent la prière de la nuit, et alors il serre son pagne. Et c'est une image pour dire en fait qu'il délaisse la sexualité.
Ou aussi retrousser ses manches, ça veut dire.
Voilà, exactement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a aussi la question de l'i'tikaf. Et le verset qu'on a évoqué, il parle de l'i'tikaf. Ça veut bien dire que le ramadan, il y a une démarche progressive. Et justement, pour atteindre le saum, à un moment donné,
un cheminement,
de manière temporaire, on peut délaisser la sexualité, d'accord? Parce que en fait, on est préoccupé par quelque chose de beaucoup plus important.
Par le développement de notre intimité.
Par la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, Maryam dit clairement, Inni nadartu lirrahman. Et la rahma ici, c'est quoi? C'est que justement, elle se plonge dans l'océan de la miséricorde divine parce qu'elle est en train de se nourrir tout simplement.
Ouais, donc on rappelle le verset du Coran, le fameux verset 187 de Sourate al-Baqarah, où Dieu dit وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. C'est-à-dire, n'ayez même pas des préliminaires ou des attouchements avec vos épouses alors que vous êtes en état de retraite et de lien intime avec Dieu dans vos mosquées.
Mais cette retraite n'est pas obligatoire.
Elle est juste pour signaler.
Elle est obligatoire.
Mais quand, à partir du moment où vous l'êtes imposée, elle devient obligatoire.
L'esprit du Ramadan, c'est le développement de l'intimité entre l'individu et Dieu subhanahu wa ta'ala.
Jamil.
D'accord. Ça, c'est l'esprit du Ramadan. Pour
tu peux parler à tous les auditeurs. Hein.
Voilà. Pour hommes et femmes. Maintenant, avant, il n'y avait pas de sexualité. Il y a une dérogation, mais ce n'est pas une obligation.
Oui, voilà.
Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas... Ouais, ça y est, c'est permis, je vais le faire. Non, il t'a donné une ouverture à toi, aux hommes, aux femmes, de vouloir profiter ou pas et de vouloir se concentrer sur telle ou telle relation intime. Donc, c'est celle qui est primordiale, c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Merci, Jameldine. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, allô l'imam, vous avez une question à poser à l'imam Abdelali Mamoun. Vous composez le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Retrouvez Ramadan & Co tous les jours de 19h à 20h sur Beurre FM.